Bonjour à tous, Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure, accompagné de mon acolyte encore et toujours, Robert Blondin. Cette semaine, on vous parle encore de ce qui va bien dans le monde parce qu'il y a des belles choses qui se font autour du globe et on est là pour vous les partager en bonne nouvelle. Robert Blondin nous parle également du bonheur et sur son segment du bonheur, continue à nous dévoiler les clés de ce bonheur. Et on reçoit à l'émission cette semaine Nathalie Duquette, qui est tatoueuse et propriétaire du NFT's Tattoo à Sherbrooke, et elle utilise le tatou de manière particulière. Bienvenue à Aime la vie! Ah, Robert, bonjour!
Bonjour, Emmanuel.
Oh, tu as l'air en forme aujourd'hui.
Bonjour, généralement en forme.
Tu es toujours en forme.
Ben non, mais quand je suis pas en forme, je viens pas ici.
Quand tu es tout le temps là, c'est bon, c'est.
C'est beau.
Écoute, Robert et les auditeurs qui nous écoutent à la maison et qui étaient là la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est laissé en fin d'émission avec une nouvelle qui t'a laissé un peu dubitatif, Robert. Elle t'a laissé mitigé.
Ah oui?
On a parlé de EliQ, qui est un nouveau gadget électronique pour contrer la solitude et la dépression chez les personnes âgées. Tu te souviens? Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je viens de faire un topo assez grotesque, mais suffisant, je pense, pour simplifier la chose. C'était un gadget qui ne propose pas de remplacer l'humain, mais qui offrait une... je ris parce que Robert est très expressif dans son visage, comme dans « j'en reviens pas encore ».
Ça remplace pas l'humain, tu sais.
Exactement, mais je nommais...
Mais quand il y a un humain, il n'y en a pas besoin, par exemple.
Ben voilà, mais c'est surtout que, bon, les ingénieurs derrière cette EliQ-là, qui est comme une espèce d'iPod, donc qui se met sur un socle, sur une table, avaient dans l'idée d'apporter un aspect de soutien émotionnel supplémentaire et en plus de la présence physique pour la personne qui la possède. Et moi aussi, cette nouvelle-là m'avait laissé dubitative, dirais-je, mitigée. Mitigée, c'est un bon mot.
J'étais pas tout seul quand même.
Non, parce que je me disais, bon, si le problème existe et qu'il y a une avancée et que ça fonctionne, ben, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais effectivement, ce qui est en dessous de ça n'est pas nécessairement positif et encore là, on peut se questionner sur la qualité de cette... invention.
Ben pour moi, je n'en connais pas plus long qu'il faut sur le sujet, mais c'est dans ma tête à moi, c'est dans la catégorie des poupées gonflables, tu sais.
Oh mon Dieu, j'allais tellement partir sur un sujet, mais je le garde, j'ai une idée là-dessus, mais je t'entends. Mais ça m'a fait me pencher et réfléchir davantage sur ce projet-là, et je pense que dans la vie, du moins moi, quand je pense à quelque chose, ça m'arrive, ça arrive à moi, ça arrive vers moi. Et j'ai eu cette... information-là, et j'ai été creusée plus loin. Et il y a cette tendance et cette idée-là qui continue à vouloir contrer l'isolement, la solitude et la dépression chez les personnes âgées et qui est de se faire rencontrer nos enfants et nos personnes âgées. L'idée est de mettre des enfants d'âge préscolaire, des garderies, finalement, des locaux de garderie, dans des centres pour personnes âgées. Et ça existe. C'est une initiative qui a commencé à Seattle. Ça s'appelle l'Intergenerational Learning Center, où une garderie, donc des enfants de 0 à 5 ans, sont placés dans un centre pour personnes âgées de plus de 400 résidents et ils s'y trouvent 5 jours par semaine. Comme dans les CPE, il y a des journées qui sont programmées d'activités, il y a des activités qui sont programmées pour les deux, je dirais, sous-communautés, donc à la fois pour les enfants et les personnes âgées ensemble. C'est pas toujours le cas. Par contre, il y a quand même un aller-retour qui est assez libre de la part des enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans les airs, le hall d'entrée, par exemple, pour aller jouer avec les personnes âgées. Et les personnes âgées sont invitées à aller dans les locaux des enfants pour aller les rejoindre, les observer, les assister, en plus des activités qu'ils font conjointement. Et non seulement font-ils des activités conjointes comme des activités créatives, passer les heures de lunch ensemble, mais ils vont aussi faire des activités caritatives pour d'autres communautés, soit faire de la nourriture pour les personnes sans abri, par exemple. Et je trouve ça Génial, parce que les bienfaits chez les personnes âgées sont sans équivoque, je veux dire, ils se sentent moins incompétents, ils se sentent moins vieux et littéralement vivants. Mais au-delà de contrer la solitude et de mettre de la vie, je pense aux bénéfices que ça a pour nos enfants également. Parce que être en contact avec ces personnes avec de l'expérience et de la sagesse pour nos enfants, ça leur permet une attention qui est soutenue. Souvent, nos éducatrices, hey, c'est une éducatrice pour 6 enfants, je veux dire, on est tous humains. Là, on a des résidents qui sont présents, qui ont envie d'être là, qui peuvent porter main forte. Donc, il y a une espèce de présence inconditionnelle qui est là. Et certaines personnes... il y a le partage de l'expérience, le partage des souvenirs, raconter des histoires, et non seulement ça, si ces personnes-là présentent des... le mot en français, c'est... En anglais, j'ai juste impairment, des limitations physiques ou cognitives. Imagines-tu ce que ça apprend aux enfants?
D'après toi, est-ce que tous les gens âgés ont les outils pour faire ça?
Non. Et c'est...
Est-ce que tous les enfants ont le goût de le faire? Non plus. Si ça se fait librement.
Exactement.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si on pousse les enfants à faire ça, si on pousse les gens âgés à le faire, je trouve ça un petit peu difficile.
On pousse les enfants à faire plein de choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Je veux dire, dans une école normale, les structures qui sont là, les tâches qui sont là.
Je suis de la génération des enfants libres de Summerhill, moi, tu veux des écoles libres, hein?
Non, certains enfants n'aiment pas les périodes d'éducation physique, certains enfants n'aiment pas les périodes d'éducation. Je veux dire, ça s'applique à vraiment n'importe quoi. Mais moi, ça, je trouve que c'est une initiative qui est primordiale, qui est incontournable, qui devrait être partout actuellement. On en voit aux États-Unis, au Japon et au Canada. À Invermere, je le dis-tu comme il faut, en Colombie-Britannique, Jean-Sébastien, j'avais dit à Jean-Sébastien à la régie que j'allais le faire participer plus souvent. Invermere, ceux qui nous écoutent à la maison, je suis désolée si vous avez un attachement affectif particulier avec cette ville de Colombie-Britannique, mais bref, au Canada depuis 2011, il y a une école qui, les mardis et les vendredis, vont dans un centre pour personnes âgées. Toronto également, on voit des initiatives qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui sont appelées comme consultants dans les cours de philosophie des classes secondaire pour parler des sujets comme la mort, comme le processus de vieillir. Et on se rend compte que les étudiants ont des meilleurs résultats en lecture, que les personnes âgées ont une plus grande espérance de vie et ça diminue la prise de médication. Je veux dire, c'est pas rien, là.
Ah, c'est super.
New Jersey, il y a même un orchestre intergénérationnel et dans la ville de Belmont, Massachusetts, le HIP, qui est le Habitat Intergenerational Program. C'est un projet environnemental qui est une activité un peu parascolaire, hebdomadaire, où des jeunes, après l'école, vont avec les personnes âgées pour la reconstruction d'habitats naturels. Et récemment, le 21 janvier dernier, il y a une initiative au Québec à Deux-Montagnes qui a été prise, qui est à la garderie, qui est en face du Vigisanté de Deux-Montagnes, et donc qui implique les deux établissements nécessairement. Le 21 janvier dernier, il y a eu un vernissage d'un projet artistique collectif intergénérationnel qui a été fait au Vigisanté. Et ça a été fait par des personnes âgées, par des enfants de 4 à 5 ans. Et les deux établissements collaborent depuis 2016. Et je me demande pourquoi on n'a pas plus... Pourquoi ça ne devient pas automatique de... mélanger les générations comme ça, parce que...
Est-ce que tu connais le plus grand projet intergénérationnel qui existe actuellement?
Mon petit doigt me dit que je vais le savoir à l'instant.
C'est quand les Rolling Stones donnent un concert, quand les gens ont 20 ou 30 ans dans la salle, puis ils en ont 70 sur scène, c'est intergénérationnel, ça?
Mais... mais la beauté qu'on voit quand les générations se mélangent, c'est une des plus belles choses qu'on voit, on est tout le temps... émerveillé et de voir...
Quand c'est sur une base volontaire réciproque.
Ça, c'est pour tout, Charles.
Non, c'est pas pour tout, parce que moi, je visite des maisons de personnes âgées à cause de ma mère, qui est très âgée dans un centre, et tout le monde n'est pas là volontairement. Et tout le monde n'est pas là volontairement pour recevoir les gens qui viennent non plus. Tout le monde n'est pas égaux là-dessus.
Effectivement. Ouais. On recensait certaines personnes qui souhaitaient se retirer tout simplement du projet. Ils avaient la liberté de le faire. Donc, c'est nécessairement, dans le consentement éclairé, la liberté de chaque individu. Mais je pense qu'on pourra dans les générations à venir, réapprivoiser la sagesse et l'expérience des personnes âgées et avoir une...
D'autant plus qu'il va en avoir de plus en plus. Hein?
Moi,
les gens de ma gang, ils commencent à être nombreux, puis moi, j'avais l'intention de me rendre encore un bon bout. T'sais.
Ben, toi, t'as pas fini, puis on le sait. Hein?
Ben, j'essaie.
On est pogné avec toi.
Oui, t'es pogné sur toi.
Cette semaine, on a une invitée bien spéciale. Elle est tatoueuse depuis 25 ans et elle se demandait comment faire un peu plus que juste son travail. Elle voulait rendre le monde meilleur. Elle est spécialiste en portraits, mais porte n'importe lesquels. Elle nous permet d'avoir un souvenir impérissable des gens qu'on aime et qui sont décédés. Et elle vient nous parler de son initiative. Madame Nathalie Duquette, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, ça va très bien.
Merci d'avoir accepté l'invitation et de venir partager votre magnifique projet avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que vous êtes très populaire et très en demande, on va se le dire.
Bien, merci à vous là, d'avoir pensé à moi. C'est super gentil. J'apprécie.
Bien, ça fait plaisir. Écoutez, j'ai tellement de questions à vous poser parce qu'il y a tout l'aspect femme dans ce projet-là, la femme tatoueuse qui avait une passion, mais également ce nouveau projet où vous avez voulu mettre votre art au service des gens, de leur perte et de leur peine. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait qu'une femme se demande ce qu'elle peut faire de plus.
Bien, je pense que c'est à travers le métier puis l'évolution du métier puis tout ça que...
Dans ce métier-là, justement?
Pardon?
Où vous en étiez dans ce métier-là, justement?
Bien, c'est sûr que ça fait depuis que, je te dirais, quand j'ai eu mon 20 ans de tatouage, là, je commençais à trouver que je me répétais un peu puis que je pouvais peut-être faire plus que juste faire des beaux tatouages, tu sais. À travers, justement, l'histoire des gens, j'ai plein de souvenirs de plein de gens. Je me rappelle de tout le monde, tu sais. Je recroise des gens des fois, là, puis... ça fait des années, puis je m'en rappelle encore, parce qu'ils ont souvent des histoires particulières, des histoires super touchantes. Je fais même partie du commentaire par rapport aux enfants. Après, exemple, que je fais un enfant décédé, un portrait d'un enfant décédé, mais souvent, s'ils ont des frères et des sœurs, ben ça peut changer la dynamique après, au milieu de la famille, là, tu sais, par rapport
au fait
que... Bien, parce que là, le tatouage, il fait partie de chaque matin. Tu sais, il est exposé, les enfants le voient. Oui, on se rappelle de tous ces beaux moments-là, parce que quand on fait un portrait, c'est pas... à mon avis, c'est pas d'imprégner le fait que cette personne-là est décédée, mais plutôt d'imprégner la vie qu'on a eue avec cette personne-là qui est précieuse pour nous, tu sais. Fait que c'est sûr que à quelque part, dans le deuil... ça fait une transformation, tu sais, laquelle je pourrais pas vous dire exactement. Là, faudrait plus poser la question à ces gens-là, mais je sais qu'il y en a une. Ça, c'est ce qui m'a tenue au fait de continuer à faire mon métier, parce qu'à un moment donné, c'est comme dans n'importe quel métier, si on se sent pas utile, à un moment donné, je pense que ça devient moins passionnant, tu sais. Fait que, c'est vraiment plusieurs matins que je me levais, que je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, tu sais. Puis là, bon, l'idée de l'envers du tatou m'est venue parce que moi, j'ai un projet, il est un peu stand-by, je te dirais, parce qu'on attend des financements puis tout ça, là, mais à travers la réalisation des portraits, mais je veux aller aider des gens, mais vraiment personnellement, puis en temps réel, tu sais.
Oui, parce que là, le projet que vous tenez... à la boutique et est avec votre conjoint Sébastien, mais vous êtes aussi dans la coproduction de ce projet L'envers du tatou qui veut devenir un projet télé, là, de ce que vous faites.
Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, mais ce qu'on veut le plus, c'est vraiment aller aider des gens. Je te donne un exemple, là. Moi, j'avais déjà commencé, mais à bas échelle, en faisant, mettons, des tirages d'un tatouage gratuit. Mm-hmm. Là, bon, je donnais des sous à des enfants autistes que je connaissais ou des trucs comme ça, tu sais. Fait que c'est sûr que de fil en aiguille, tu sais, il en est venu au fait qu'on pouvait peut-être réaliser ça, mais plus facilement avec une émission, tu sais, une émission télé-web ou à la télé, là, mais tu sais, on est vraiment en attente de financement. On continue à travailler, mais à travers notre vie, mettons, là, qui est quand même assez...
À quoi ça va ressembler, madame, votre émission télévision, éventuellement, si ça fonctionne?
Bien, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment aller toucher les gens par rapport à raconter les histoires des gens. Je te donne un exemple, un couple perd un enfant, ou c'est pas nécessairement toujours des deuils non plus, là, tu sais, ça peut être des réussites, ça peut être un enfant qui va à l'école de musique, mais bon, énormément de talent, il manque un petit peu de sous, la maman se fait faire le portrait de son enfant, me raconte un peu cette histoire-là, puis là, nous, après, avec du financement, on va aller aider ce jeune-là directement, c'est un peu comme...
Il y a toujours un tatouage d'impliqué, là.
Toujours. Ouais.
Oui, puis on va mettre pour nos auditeurs quelques portraits que vous faites parce que vous êtes extrêmement talentueuse et on peut aller voir également sur votre page Facebook le Neftiz tatou, mais parce que c'est des tatouages qui, moi, je m'y connais pas extrêmement en tatou, mais j'ai des tatouages et ça coûte cher un tatou d'envergure comme vous le faites, là. Donc, c'est un gros cadeau que vous donnez, là.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, c'est un luxe comme on pourrait se permettre de dire là, dans un sens. Fait que c'est sûr que c'est quand même des coûts qui sont quand même élevés là.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts? Moi, je les connais pas, ces coûts-là.
Ben normalement, je te dirais que un tatoueur professionnel va travailler à entre 125 et 150 $.
Pis c'est un 5 à 8 heures, là, des gros tatous comme ça.
Oui, exactement. Fait que c'est sûr que moi, souvent, ben j'y vais avec la relation que j'ai avec la cliente. Mm. Puis souvent, ben quand ça se fait plus facilement, on n'est pas discipliné à l'heure juste, là, c'est sûr. Là, mais c'est sûr que faut calculer le matériel, la stérilisation, tous les trucs... C'est quand même une bonne préparation aussi, là, parce qu'on n'a pas juste le tatouage à faire, on a la préparation, on a le dessin avant, on a plusieurs étapes là, à faire aussi. Là.
Mm-hmm. Il y a une question, je peux t'en poser une autre?
Ah, oh, mon Dieu, pose tout ce que tu veux, Robert.
Oui.
Fais aller ta curiosité.
Je vais poser une question. Quelqu'un qui a perdu un être cher, là, qui fait faire un tatouage comme ça, bon, est-ce que ça aide son deuil de que son bras devienne un monument funéraire, là?
Oui, c'est sûr que pour des gens qui n'ont pas vécu, écoute, moi, je te dirais que ça faisait peut-être 2 ans que je tatouais quand j'ai commencé à faire des portraits à l'époque. Mm-hmm. Je chargeais 50 $ du portrait. Puis, très rapidement, j'ai été connue pour ce que je faisais par rapport à ma spécialité qui était le portrait. Les gens n'étaient pas habitués à cette époque-là. Fait que c'est sûr que ça fait des années et des années que je vis là-dedans, que je tatoue des gens qui ont perdu des êtres chers. C'est pas toujours des enfants, ça peut être des parents, ça peut être une sœur, un frère. Puis c'est sûr que pour quelqu'un qui vit pas régulièrement avec ces gens-là, qui voit pas les étapes, qui voit pas... Moi, des fois, je vois des gens arriver ici, ils sont complètement démolis. Puis au deuxième rendez-vous, ils vont beaucoup mieux. Déjà.
Donc, c'est thérapeutique. Oui. Quand vous disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas trop l'impact que ça avait, mais vous la voyez quand même déjà de séance en séance, c'est ce qu'on entend.
Ah oui, vraiment, vraiment. Puis même, ils vont me le dire par rapport aux enfants aussi. Tu sais, parce que ces gens-là, ils vivent des deuils qui sont quand même parfois très, 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 très lourds et très durs. Chacun a son histoire, mais il y a des histoires qui veulent pas se décalent de toutes les autres, puis que tu te dis « bon sang ». Si je serais à cette place-là, comment je vivrais ça? Puis on réussit à voir à quel point que oui, ça peut faire du bien, au lieu de penser que le fait de porter le portrait de son enfant peut y rappeler toujours le fait qu'il est décédé. Je pense que c'est le contraire. C'est comme si ça le ramènerait un petit peu en vie, dans un sens, tu sais.
Mais là, vous parlez d'histoires qui sont particulièrement lourdes. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué, justement, de par sa... beauté où vous vous disiez justement si j'étais là, moi, je pourrais pas.
J'en ai vraiment plein, mais dernièrement, j'ai tatoué une femme et un homme qui ont perdu, c'est des gens de Sherbrooke, qui ont perdu leur fils de 3 ans. Comment ça s'est passé? C'était en plus à l'anniversaire de la mère de famille, là. Eux, ils avaient 3 enfants. Donc, elle est partie souper pour sa fête avec son mari. Puis, en revenant du restaurant, ils se sont assis sur un banc de parc. Puis, ils ont discuté tout ça. Ils sont rentrés à la maison. La gardienne était là. Ils ont trouvé l'enfant de 3 ans mort dans son lit. Mais les docteurs, l'hôpital, tout ça, ils ont jamais trouvé qu'est-ce qui était arrivé exactement. Donc... le fait que ça soit sa fête, le fait qu'il y ait 2 autres enfants, souvent ces gens-là sont bousculés aussi par rapport à tout. Bonjour.
Oui. Ah, on pensait qu'on vous avait perdu. Non, vous êtes là, c'est beau.
Oui, moi aussi. j'étais dans ma petite bulle, mais ça a fait un petit son. Bon. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, puis c'est des étapes parce que, bon, t'as le fait quand tu reviens à la maison, les policiers, les questions avec les policiers, les démarches auprès de la gardienne, auprès des enfants, les psychologues, l'école. il y a beaucoup d'étapes. Fait que c'est sûr que c'est, je pense que ces gens-là, ils continuent parce qu'ils ont d'autres enfants aussi, mais je pense qu'on peut pas comprendre tant qu'on le vit pas.
Effectivement. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous comble le plus à faire ce que vous faites à travers votre art?
Ben moi, ce qui me comble vraiment, c'est que je pense que ces gens-là, ils me touchent énormément de un, ça c'est sûr. Je comprendrai jamais ce qu'ils vivent totalement, mais c'est sûr que j'ai une compréhension quand même plus près de ce qu'ils vivent parce que j'ai plein d'histoires là, tu sais, j'ai vécu plein de choses avec des gens. À travers ces heures de travail là, on se rapproche beaucoup, on se parle beaucoup. J'ai quand même une bonne oreille, fait que c'est sûr que puis une oreille qui écoute pour vrai. Parce que je pense que ça, c'est la première des choses qui est importante. Ces gens-là, ils sont contents quand ils partent. T'sais. C'est comme si je leur aurais donné une petite étoile, un petit quelque chose. T'sais. Fait que c'est sûr que pour moi, ça me comble énormément. Quand j'arrive chez nous puis que je suis avec ma famille, ben je me trouve donc chanceuse. T'sais. Si je peux faire une petite différence dans la vie de ces gens-là, ben tant mieux, parce que tu sais, souvent j'ai même des gens qui pleurent quand ils voient le tatouage. C'est des histoires qui sont lourdes, mais tu sais, si tu les prends, comment je pourrais dire ça, si tu les accueilles, ces gens-là, avec une compréhension puis un respect, mais je pense que le restant, il vient avec, puis c'est normal que ça me fasse du bien à moi aussi de leur faire du bien.
T'sais. Mais tout à fait, puis vous mettez vraiment un pansement sur les cœurs. Je veux rappeler que vous vous situez au 61 rue Wellington Nord à Sherbrooke. On peut aller visiter également votre page Facebook, le Nephtys, Nephtys Tattoo. Rapidement, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes pour les gens qui seraient intéressés à aller vous visiter?
Oui, c'est sûr qu'on est cinq, là. Donc on est cinq artistes, fait qu'on, je suis pas toute seule, là. Donc moi, c'est sûr que c'est quand même assez long, là. On parle d'un an à peu près, mais j'ai des compagnes de travail que c'est un peu moins long, là.
Bien, merci beaucoup, parce que comme vous l'avez dit, non seulement il faut avoir beaucoup de talent artistique pour faire ce que vous faites, mais il faut également une écoute et un grand cœur. Merci beaucoup, Madame Duquet, d'être venue nous partager
ça.
Merci, au revoir.
Beaucoup. Merci à vous. Bye bye.
Toujours à Aime la vie, Emmanuel Robitaille avec vous et Robert Blondin également, qui cette semaine encore viendra nous parler du bonheur. Parce que le bonheur, c'est marcher dans la nature à la rencontre de ses tendresses. On en parle chaque semaine. On est dans cette épopée, dans cette quête-là de l'étude que tu as menée pendant 3 ans sur le bonheur et qui nous a fait découvrir 6 grandes clés qui s'étendent à tout humain de tout âge, de toute culture, à travers le temps.
Et l'espace. Oui, on a parlé de la première caractéristique des gens heureux, qui était la disponibilité au changement.
Oui, d'être prêt et d'accepter.
Extrêmement important.
Et qui est extrêmement difficile, oui.
La deuxième, c'est l'harmonisation des deux hémisphères du cerveau.
Oh!
Je m'explique, ça a l'air très savant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Tu vas voir. Et ça va te toucher personnellement.
J'imagine.
Ce que je veux dire.
Oh mon Dieu, je te vois aller. Vas-y.
Parce que... On sait tous que les deux hémisphères du cerveau ont des fonctions un peu différentes. Oui. Maintenant, ça se nuance un peu, mais c'est quand même encore comme ça. Un côté plus intuitif, plus créatif, les émotions, un côté plus rationnel de l'autre côté, plus structuration, raisonnement, etc. Mm-hmm. Bon. Entre ces deux hémisphères-là...
On a un corps calleux.
Il existe surtout des synapses, c'est-à-dire des connexions. Or, les connexions entre les deux hémisphères du cerveau doivent être provoquées. Par toutes sortes de moyens, il faut provoquer, c'est facile à dire, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon. quand on passe un électroencéphalogramme à des gens heureux qui savent pourquoi, c'est sage, c'est bon, qui ont un certain degré de sérénité.
Parce qu'on se rappelle que tu as interviewé personnellement ces gens-là.
Oui, oui, 1800 au total.
Mm-hmm.
On s'aperçoit que le taux de synapsisation entre les deux hémisphères est extrêmement plus élevé que ceux qui sont vraiment moins bien dans leur peau. Je dis, OK, facile à dire. Alors, comment est-ce qu'on va provoquer ça, cette connexion-là? Une connexion, un synapse, une fois que ça s'établit entre les deux hémisphères, ça ne s'en va plus. Ça reste pour toujours.
Donc, il y a une permanence.
Il y a une permanence, ça ne s'efface pas. Donc, quand tu en as acquis, tu les gardes. Okay? Comment tu fais ça? Ils ont cherché dans tous les domaines. Il y a sûrement plusieurs façons, mais il n'y a qu'une façon dont on peut prouver l'efficacité scientifiquement.
On prend des notes à la maison et moi, j'en prends ici. Comment faire
de meilleur... Non, mais c'est le bon mot. C'est le bon mot que tu viens de dire.
Connection.
C'est l'apprentissage de la musique.
Oh.
Qui est le meilleur instrument pour la synapsation des deux hémisphères. Voici pourquoi. Parce qu'on ne parle pas de chanter dans son bain la toune à la mode. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'apprentissage de la musique. Alors, quand on apprend sérieusement la musique, tout le côté solfège 1 et 2 et 3, etc., ça, c'est le côté rationnel, le côté arithmétique, mathématique.
Effectivement.
Tout à fait. Mm-hmm. L'autre côté, c'est l'interprétation qu'on donne à ça. Alors, en suivant une partition et en se forçant pour bien la jouer et apprendre la musique, on force la synapsisation, ce qui fait que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des enfants, c'est de leur offrir des cours d'apprentissage de la musique. Et on ne parle pas du garage band en jouant de la batterie. C'est vraiment un apprentissage beaucoup plus sérieux de la musique. Qu'ils aient du talent ou non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'effort qu'on fait pour l'apprendre, donne cette synapsisation qui va rester le restant de leur jour. Et c'est un des outils extrêmement importants du bonheur que cette synapsisation des deux hémisphères du cerveau.
Et imagine la place et la considération qu'on donne à nos artistes et à la musique dans nos sociétés. Je veux dire, c'est à considérer sérieusement.
On pourrait discuter longtemps sur l'importance qu'on donne à la musique. Si c'est à la musique qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas apprendre, qu'on fait juste subir parce qu'il y a un gros drum, il y a un gros beat de drum dedans, c'est pas de ça que je parle. On parle d'une musique beaucoup plus sophistiquée. Et ça, c'est cet apprentissage-là qui est important.
Et moi j'ai une question parce que j'entends, puis c'est très, très logique de mélanger ce côté mathématique, arithmétique, mais également artistique, qui clairement mélange tout ce qu'on est, les deux pôles. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir des plus grandes connexions? C'est quoi le résultat de ça, oui, d'être plus heureux? Ça crée du bonheur, ça, c'est relié au
dopamine, toi qui fais des études, ben oui, ça j'allais t'en dire. Sérotonine et dopamine.
C'est-à-dire dans le système limbique, finalement.
C'est ça. Alors, plus de connexion, plus ta production est abondante.
Parce qu'on sait que le système limbique se situe dans le milieu du cerveau et c'est tout le système de récompense et également le système avec l'hypothalamus, l'hypophyse, etc., qui travaille beaucoup sur l'humeur. Donc, c'est très, très logique.
Si tu n'as pas le temps, tu prends une palette de chocolat.
Parle-moi si je l'ai faite hier. J'avais pas le temps hier. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une palette de chocolat. Merci, Robert. Tout le monde a entendu parler du chemin de Compostelle. Robert, tu connais le chemin de Compostelle? Compostelle en Espagne?
Oui, j'ai déjà fait de très longs documentaires là-dessus.
Bon, chemin de pèlerinage par excellence, le plus connu au monde. C'est vraiment... En fait, hey, en réalité, il y a 4 chemins pour Compostelle, tu savais?
Beaucoup plus que ça.
Et des sous-chemins, c'est ce que j'allais dire. Et nombre de sous-chemins et de chemins alternatifs.
C'est une arborescence. Hein?
Exactement.
Si tu parles des 4 chemins, c'est probablement que dans les 50 derniers kilomètres, ça se rejoint. Mais avant ça, là, ça vient de partout.
Mm-hmm, exactement. Mais il y a 4, disons, plus grandes. Comparons ça à des sentiers, des autoroutes et des routes. Il y en a toutes sortes, mais quand même, on finit par se rendre à Compostelle en Espagne. Et... Certains le font pour des fins spirituelles. La plupart, en fait, c'est un grand, grand chemin de découverte de soi, d'introspection, de méditation. C'est un chemin vers l'intérieur, finalement, qu'on marche. Mais certaines personnes peuvent le faire simplement comme défi. Il y en a qui vont, parce qu'ils en ont entendu parler, qui sont curieux du tourisme là-dedans, simplement un défi. Mais les fins spirituelles... C'est, je dirais, le motif majeur pour lequel on s'engage dans une activité comme le chemin de Compostelle.
C'est comme ça que ça se passe tous les soirs. T'arrêtes le soir dans des refuges,
mm-hmm.
et dans les refuges, il y a des discussions de spiritualité tous les soirs.
J'espère.
Et t'es censé marcher différemment, avec des personnes différentes chaque jour.
Pour apprendre...
Et discuter de choses comme ça. Moi, c'est un aspect qui me plaît moins, pour moi, la spiritualité plus personnelle, mais beaucoup de gens le font. Mais c'est quand tu parles d'autoroute, malheureusement, Compostelle, c'est devenu une autoroute.
Mm.
T'es à veille d'avoir des feux de circulation là-dessus. Là.
Mm-hmm.
Il y a tellement de monde qui font ça, là. T'as pas idée.
Mm-hmm.
Puis t'as des versions de luxe avec hôtel, l'autobus qui t'amène à l'hôtel le soir.
Ben, c'est de là versions. Que je disais que les motifs peuvent différer de personne,
ouais,
mais à la base, quand ça a été créé, il y avait quand même la fin spirituelle. Moi, c'est un petit... tu t'as nommé tout à l'heure que t'étais pas tout à fait d'accord, tu viens de nommer en fait que t'étais peut-être moins d'accord avec l'aspect de partage. Pour moi, tout est spirituel. Il y a apprentissage partout, tant aussi longtemps que tu n'oublies pas d'aller vérifier ce qui résonne en toi ou pas. Ça ne veut pas dire d'avaler tout ce que tu vois et ce qui t'est dit autour de toi. Je ne pense pas que c'est là que tu vas aller puiser tes réponses, mais de puiser des réflexions, ça oui, par contre. Et ce que je veux vous amener, en fait, c'est que ce n'est pas nécessaire d'aller à Compostelle pour faire ce type de périple-là. Et on propose 7 chemins de pèlerinage ici, au Québec, et j'ai envie de vous les partager.
Pour... Appelons pas ça des pèlerinages.
Tu auras envie qu'on dise quoi?
C'est des randonnées, tout simplement.
Des randonnées pédestres?
Oui, bien c'est ça que c'est. C'est pas autre chose que ça, Compostelle. C'est des randonnées pédestres et tu bien sûr, c'est long, c'est difficile et tu réfléchis pendant ce temps-là. Mm-hmm. J'ai une compagne, moi, qui est une grande randonneuse, qui a fait le G20, c'est-à-dire la Corse du nord au sud par les hautes montagnes, ce genre de ou au Massachusetts ou partout aux États-Unis, dans les Appalaches. C'est une somme de réflexion qui se fait avec ça. Le mot pèlerinage est pour ma génération, en tout cas, est très associé à des choses religieuses. Et le vrai pèlerinage, la vraie spiritualité, n'a rien à voir avec la religion.
Effectivement. Je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est aussi calqué sur ce que ces routes avaient à la base comme fonction, qui étaient aussi des découvreurs et des pèlerins qui ont été là. Donc, ça vient de là. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de traverser l'Atlantique pour aller faire un tel chemin. Au Québec, on vous propose 7 randonnée spirituelle possible, en commençant par le chemin des sanctuaires qui vous propose une randonnée entre Montréal et Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça existe depuis 1999 et c'est 375 kilomètres qui sont effectués en 18 jours et on traverse ces deux villes en passant par l'oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal, le sanctuaire Sainte-Marguerite-Diouville-à-Varennes, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, du Cap de la Madeleine, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et la basilique, bien sûr, Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette année, ça se passe du 1er au 20 juin et vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire. Allez sur le www.chemindessanctuaires.org si vous avez envie d'y participer. Le chemin des navigateurs, quant à lui, c'est 400 km sur 21 jours. C'est du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, donc on traverse le parc national du Bic, très connu, magnifique. C'est 21 étapes donc, qui conduisent à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a une introspection à travers les paysages de bois, paysages marins, observations d'oiseaux, les hébergements dans des communautés religieuses, des centres communautaires ou des familles. Cette randonnée, elle va avoir lieu du 10 au 24 juin. Il y a 4 marcheurs par jour qui peuvent partir et les inscriptions sont en cours depuis le 1er février 2018. Donc, si vous avez envie de faire ce chemin, vous pouvez aller sur le www.
Selon que tu parles, c'est vraiment des pèlerinages. C'est pas des randonnées, bien sûr. Là, parce que là, je ne sais pas où tu t'en allais.
C'est la base.
C'est les Notre-Dame-du-Cap puis l'oratoire.
C'est exactement ça.
Oublie-moi là-dedans.
Ah, mais moi aussi, moi randonnée pédestre, je roule. Hein. Voilà, donc, on a... oui, j'allais vous dire justement pour le chemin des navigateurs, c'est le www.chemindesnavigateurs.org. Le sentier Notre-Dame de Capatacan, Capatacan qui signifie sentier en amérindien, simplement, c'est le petit Compostelle régional du Saguenay, c'est 215 kilomètres en 10 ou 14 jours, du parc national du Fjord du Saguenay jusqu'au lac Bouchette. Et même, on vous propose un diplôme du pèlerin à la fin, ce qui peut être intéressant. Donc, aucune préinscription nécessaire. Vous vous présentez, ça coûte 7 jours le jour même et on part quand on veut, à notre rythme en fonction de notre capacité physique. Si vous êtes intéressé, le www.sentiernotredamecapatacan.org. Pèlerinage Tarémar-Gaspésie, les îles. Depuis 2014, celui-ci qui est très spirituel. Et lui, il est dans la chrétienté. Les autres ne le sont pas réellement. On a des aspects d'établissement, spirituels. Ici, on est vraiment dans une chrétienté.
Ce sont des églises, puis tu es hébergé chez les communautés religieuses. Moi, oublie-moi là-dedans. Tu peux faire de la randonnée sans que ce soit comme ça. Là.
Exactement.
Parce que ce que tu décris, avec les dates et les inscriptions, ça veut dire qu'il y a de l'animation religieuse. C'est ça que ça veut dire. On peut faire une randonnée et réfléchir profondément sur soi-même sans que ce soit religieux.
Vous n'avez pas besoin de ça, exactement. Mais ceux qui sont intéressés, par contre, je pense que c'est nécessaire qu'ils le sachent.
Là, je vais te faire sourire parce que les gens dans notre génération qui sont encore intéressés par ces religiosités-là, ils sont tellement âgés qu'ils ne peuvent même pas marcher.
Ah, ben c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous offre, entre autres, des chemins qui vous permettent de partir et de le faire à votre rythme selon votre condition physique, Robert. Okay. Bon, arrête de me déconcentrer. Donc, je disais le pèlerinage Tarémère, Gaspésie, les îles. On marche dans le territoire du diocèse de Gaspé. Donc, c'est pas nécessairement religieux parce qu'on cherche un sens à notre existence en connectant avec la nature, tout simplement. Je pense pas que ce soit... C'est ça, exactement. Donc, pour moi, c'est ce que ça signifie. On part...
Tout ce dont tu viens de parler, je veux pas te déstabiliser. Là.
Moi, je suis vraiment fâchée.
Ça se résume en une phrase.
Oui.
Marcher dans la nature, ben, à la rencontre de nos tendresses.
Oh, on n'a pas un poudoum-tiche, hein? diocèse-gaspé.org si vous avez envie de faire le pèlerinage Terre et Mer Gaspésie les îles. Cette fois-ci, c'est du 24 au 30 juin. Vous avez également le chemin des Outaouais, qui c'est 240 km en 12 jours, départ à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, où là, il y aura plus des pistes cyclables, des chemins de campagne. On invite à la méditation et à l'introspection, et de manière générale, c'est toujours ça, et moi, j'adore ça. C'est du 25 mai au 6 juin, cette fois-ci, www.chemindesoutaouais.ca. Les inscriptions sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire depuis le 15 janvier, donc c'est maintenant. La traversée de la Gaspésie, ou le TDLG pour les intimes, propose des randonnées, eux, automne-hiver, ce qui peut être très intéressant.
Et donc... qui n'ont rien de religieux.
Non, pas du tout. Donc, traverser en bottine, en hiver, en raquette ou en ski de fond, c'est 6 jours et 7 nuits. C'est le Cap Gaspé, le Parc national Forion, le Mont-Jacques-Cartier, Petite-Vallée.
Formidable, ça c'est formidable.
Au programme. Pour l'édition en ski et en raquette de l'hiver 2018, c'est du 17 au 24 février. Donc, ne tardez pas. Pour plus de détails, le tdlg.qc.ca. Et finalement, et non le moindre, le chemin de Saint-Rémy. Ou le chemin maintenant, c'est non le moindre parce que c'est 800 kilomètres. C'est 56 villes et villages des régions des cantons de l'Est, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. C'est un parcours rural. 4 saisons. Il y a des forfaits différents en fonction de votre catégorie, que vous soyez un nouveau marcheur, un marcheur initié ou un marcheur expérimenté. En autant que votre forfait ou que la durée soit minimale, c'est 7 jours minimum, finalement, indépendamment de votre catégorie de marcheur, mais au moins, il y a une adaptation qui est possible. Si ça vous intéresse, allez visiter le www.chemin-saint-rémy.québec et leur page Facebook également pour plus de détails. Ça va marcher cette année, Robert. Sauve-toi.
Je marche encore un peu malgré mon âge, mais j'ai une compagne qui marche beaucoup, mais moi c'est moins l'aspect religieux, moi c'est en question.
Je pense qu'on garde tous l'idée introspection, méditation et un moment de se retrouver, et moi c'est ce que je prône également.
On n'est pas toujours avoir le besoin, n'est-ce pas, de se joindre à un groupe pour le faire. On peut décider qu'on marche de point A au point B, and that's it.
Très bien dit. Toujours des bonnes nouvelles, Robert. Qu'est-ce qui t'a émoustillé cette semaine?
Émoustillé?
Ah, oh, moi, j'aime ce mot-là. Je le mets à plaisir. Émoustillé.
Tu veux des noms, hein?
Ah, oh, je veux des noms. J'ai on veut des noms.
T'es auras pas les noms. Oh. Ben, il y a...
On salue ta blonde.
Il y a une Tesla qui s'en va sur Mars, là. Qui s'en va vers Mars. C'est incroyable, cette histoire-là. La plus grosse fusée. Écoute, Monsieur Musk a de l'argent pour avoir une fusée comme ça, pour envoyer une Tesla. Mais je vous des images tellement extraordinaires. En même temps, un scandale absolument total parce que à quoi ça sert, compte tenu de l'argent impliqué et des besoins dans le monde qu'on a, ça c'est autre chose. Mais ce même monsieur, parfois, fait des choses plus correctes. En Afrique du Sud, il a installé des nouvelles batteries basées sur la technologie Tesla, j'imagine, puis tout ça. Hein.
Il était en train
assez pour que des éoliennes puissent vraiment garder l'énergie beaucoup plus longtemps, ce qui fait que l'Afrique du Sud, actuellement, va être équipée complètement pour tous les villages de ces batteries-là qui va permettre à très courte échéance d'avoir les éoliennes voulues pour les alimenter et pouvoir servir de village.
Bon.
Je trouve ça plus intéressant que d'envoyer un char rouge vers Mars, la planète rouge. C'est le concept, ça, là. Bon. Parce que j'ai de la misère avec cette affaire-là. Mais c'est bien beau, les images, je trouve ça extraordinaire. C'est surréaliste complètement. Avec un cosmonaute qui est assis au volant de la décapotable, là, qui s'en va. C'est incroyable.
Ben c'est que moi, je trouve que
ça
représente bien, plutôt que d'améliorer notre planète, de changer nos habitudes, on s'en va essayer de voir si on pourrait pas juste déménager. Moi, je trouve ça complètement aberrant.
Bien sûr, on verra jamais ça de notre vivant, en tout cas, et du vivant de nos petits-enfants. Oublie ça. Pas en nombre. Peut-être pour une élite quelconque, une petite colonie. Mais les milliards d'autres, là,
Juste d'avoir l'idée. Mettez le focus sur, on a tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie renouvelable, de l'énergie gratuite. On a tout ce qu'il faut, puis ça se fait pas. Fait que moi,
c'est ce qui se fait au Danemark actuellement. Tu sais, qui sont rendus, ils ont un objectif d'arriver à plus de 50 % de leur énergie qui ne soit pas du carbone, qui ne soit pas les énergies fossiles. Ils sont rendus à 43,4. C'est absolument incroyable. Et dans 8... Oui. Ils vont y arriver, c'est quoi leur date? 2020, pour arriver à 2050,
demain,
si le programme se poursuit actuellement. À 2050, il n'y en a plus au Danemark.
On arrive à 100 %.
C'est le premier pays, pendant que des pays voisins font complètement autre chose. Mmh. L'Allemagne est dans le nucléaire. Ça va beaucoup moins bien ailleurs que là. Mmh. Mais ils font ça au Danemark de façon assez exceptionnelle.
Ils
en ont fait une priorité nationale. De sorte qu'ils sont en train de devenir les plus grands exporteurs d'éoliennes et de toute la technologie qu'il faut. L'envers de la médaille, c'est pour moi qui est un navigateur et qui aime tant la voile. Ben, si tu veux faire de la voile en mer du Nord, compte tenu des éoliennes, sais-tu combien il va y avoir d'ici 3 ans d'éoliennes en mer du Nord?
Non.
7000.
Oh!
Tu as besoin d'ouvrir les yeux quand tu fais du bateau.
Ça va y aller?
Faire du slalom tout à l'heure.
Et moi, rapidement, je vous parle de l'immunothérapie, Robert. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu et vous, à la maison, on a tous déjà entendu la notion d'immunothérapie et on est en train de travailler pour guérir le cancer par l'immunothérapie. C'est une nouvelle technique qui en est à ses balbutiements et qui utilise nécessairement le système immunitaire pour combattre le cancer. C'était un sujet clé au congrès de la Société américaine d'oncologie clinique à Chicago à l'été dernier. Et on est vraiment complètement à côté de la chimiothérapie actuelle qui, elle, la détruit, c'est ravageur complètement. Il y a une étude actuelle...
Dans certains cas, ça a marché, mais à quel prix?
Start-moi pas. Et il y a une équipe de l'Université de Stanford, rapidement, je vous explique, qui ont publié, c'est ça, cette étude, dans le Science Translational Medicine, ils ont réussi, avec l'immunothérapie, à éliminer des cellules cancéreuses chez la souris, parce que cette technique-là existait, mais elle avait ses limites. C'est-à-dire que les cellules immunitaire, ça fonctionnait au départ, ça allait détruire les cellules cancéreuses, mais venant à un certain moment où les cellules cancéreuses prenaient le dessus, emprisonnaient les cellules immunitaires à l'intérieur et donc les cellules immunitaires restaient là, inoffensives, et n'avaient plus de pouvoir d'action. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une injection pour aller piquer à l'intérieur des tumeurs. Donc, à l'intérieur des cellules cancéreuses, on va aller chercher les cellules immunitaires. On injecte quelque chose pour les raviver, pour les remettre en action. Et donc, ils repartent vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et ça a fonctionné. Et on commence à le tester sur 15 hommes atteints de lymphome peu agressif. Et on attend les résultats qui sont prometteurs. Je suis très heureuse. Et sur ce, je remercie Sébastien Laliberté à la régie, Catherine Bourderon à la recherche et toi, Robert.
Oui, je n'irai pas en pèlerinage, mais je vais retourner chez nous. Je vais revenir la semaine prochaine.
Penses-tu?
Oui.
Je vais être là aussi. À la semaine prochaine.